Silence! Silence! Tout le monde a droit à la parole. Mais si tout de suite elle veut parler, il faut et plutôt du silence. Ça s'appelle téléphoner au théâtre.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
L'exil est une espèce de longue insomnie, c'est ce que disait ce cher Victor Hugo. Alors peut-être que Sidiki Bakaba va pouvoir dormir à nouveau tranquillement. En tout cas, c'est un retour au pays natal qui ne passera pas inaperçu. RFI a fait le voyage avec lui pour vivre ses retrouvailles avec Abidjan après 7 ans d'exil parisien. C'est un retour par la grande porte du savoir, puisque lui est consacré un colloque international intitulé « Sidiki Bakaba, un engagement au service des arts et du spectacle africain » et qui s'est tenu du 16 au 18 novembre à l'université Félix Houphouët-Boigny. Colloque autour de cette figure majeure de la culture franco-ivoirienne et qui a valeur de symbole, puisqu'il s'inscrit dans cette période d'amnistie et de réconciliation nationale désirée par le président Alassane Ouattara. A feuilleté 2 ouvrages que lui consacre l'enseignant-chercheur André Baouman-Kamaté, qui est à l'origine de ce colloque d'ailleurs. Théâtre et société, réflexion sur des spectacles de Sidiki Bakaba, c'est aux éditions universitaires européennes. Et puis Sidiki Bakaba et ses œuvres en 26 lettres chez L'Harmattan, où l'on comprend que Bakaba n'est pas un simple artiste ou un artiste simple, et non, puisqu'en ayant joué sa vie entre l'Hexagone et le continent, entre le cinéma et le théâtre, en ayant incarné de grands héros comme Toussaint Louverture ou le roi Albouri, il se range plutôt du côté des émancipateurs et des libérateurs. Akwaba et bonjour Sidiki Bakaba.
Bonjour Yasmine.
On va pas être grandiloquent comme ça pendant une heure. Mais c'est vrai que le moment est spécial et qu'il y a une dimension un peu exceptionnelle à la fois dans ce retour et puis aussi dans vos 45 ans de carrière et dans votre vie d'homme qui est né dans un tout petit coin de la Côte d'Ivoire à Abengourou. On y reviendra tout à l'heure. Une première question au moment de cet enregistrement le 16 novembre. Quel est votre état d'esprit dans ce moment de retour ici en Côte d'Ivoire?
Oui, le sentiment de renaître, de respirer, d'espérer que je peux échapper à ce que un écrivain ivoirien disait, que mourir à l'étranger, c'est comme si on n'avait jamais vécu, parce que un étranger, c'est quelqu'un qui accroche sa vie comme on accroche son manteau à l'entrée d'une maison. C'est quelqu'un qui attend de vivre. Maintenant, moi, je n'attends pas de vivre, je peux voir les miens partager mon bonheur et mes tristesses avec eux.
Qui est Sidiki Bakaba? C'est une icône du cinéma et du théâtre qui, entre l'Hexagone et le continent, affiche une trentaine de pièces de théâtre, plus d'une trentaine de films sur grand et petit écran. Bref, un tempérament, une gueule et une voix.
Mademoiselle, quand quelqu'un vient dans ce genre de pension perdue au milieu de nulle part, ce quelqu'un a droit à ce qu'on lui fiche la paix. N'est-ce pas?
À moins que ce quelqu'un ne veuille autre chose.
Par exemple?
Se cacher.
Vous vous cachez?
Et vous?
Vous, vous assumez ce que vous faites, mais vous n'aimez pas le faire.
Si vous avez quelque chose à dire, dites-le.
Je ne vous connais pas, mais je vous aime bien. Alors permettez à l'aîné que je suis de vous dire ceci. Tournez la page. Avancez.
Voilà pour RFI, ici à Abidjan, un extrait en sol majeur d'Esclaves et courtisanes. C'est l'un des derniers films que vous venez de tourner avec le réalisateur guadeloupéen Christian Lara, Sidiki. Ce colloque international a été l'occasion de redécouvrir votre travail. On va le faire aussi au micro dans Sol Majeur. Et j'aimerais rebondir sur cette question du bien et du mal. C'est ce que dit votre personnage, le président qui se planque là dans ce film Esclaves et courtisanes. En quoi vous pensez que la culture peut être la bonne réponse à apporter à la crise politique et ethnique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2011?
Parce que si on l'apprend sous son aspect de mémoire, c'est très important. On nous dit un peuple sans mémoire. Mais j'aime souvent dire, nous sommes la mémoire. Il suffit simplement que nous nous baissions pour réveiller cette mémoire. Oui, la culture, dans ce sens-là, oui, nous permet de nous remettre en question. Oui, de partout, les artistes ont été là pour dire attention aux hommes de pouvoir, attention à nous-mêmes, avançons. Ils ne sont pas des dieux, ils peuvent se tromper, mais je crois que ça peut être intéressant de les écouter souvent. Hier, quelqu'un a parlé du Sankofa, qui est cet oiseau mythique qu'on voit toujours le bec tourné vers la queue et qui picore dans le passé pour se projeter dans le futur. Oui, la culture a ce rôle aussi et de rêver, beaucoup rêver pour aller, parce que sans Jules Verne, je ne pense pas qu'on aurait eu des sous-marins, qu'on serait allé sur la Lune.
Est-ce que, là aussi, je rebondis sur ce rôle de président que vous jouez pour Esclave et Courtisane, est-ce que vous-même, vous vous cachiez depuis 7 ans? Pourquoi ne pas être rentré plus tôt au pays?
Oui, parce que je crois que quand il y a une crise, lorsqu'en 2013, j'étais en convalescence parce que, bon, j'avais eu un bobo pendant l'attaque, pendant la guerre, et oui...
Un bel euphémisme, hein, ce que vous dites là, un bobo. 27 éclats d'obus dans le corps.
Oui, 27 éclats. Oui, parce que, en fait, j'essaie d'être plus fort que tout cela et que je le vivais véritablement parce que j'étais sur pied. Ceux qui étaient à côté de moi n'ont pas connu du tout cette chance-là. Ils n'ont même pas pu se relever.
Vous faites allusion au bombardement du 11 avril 2011 sur le palais présidentiel.
Oui, et ce qui a précédé les atrocités, les rues jonchées de morts, et c'était des morts d'Ivoiriens. Quel camp, quel coin, c'est pas ça qui m'intéresse. L'artiste que je suis, c'était de vouloir témoigner.
Donc vous rentrez aujourd'hui parce que c'est le bon timing. 7 ans, c'est un chiffre... particulier, non?
Oui, pour le Soninkais que je suis, oui, le chiffre 7, c'est important. Il y a le chiffre, il y a 3 chiffres mâles, 4 chiffres femelles, ensemble. Et on dit toujours 7, 7, 7. Eh bien, voilà, je n'ai pas compté. C'est mon destin qui a fait que ce soit passé comme ça. Si ce qui nous échappe revient sous forme de conscience, s'appelle destin, eh bien oui, c'est le destin.
On va tourner les pages de votre vie, Sidiki Bakaba, et de votre parcours artistique. Et avant de rentrer dans la case de votre chère maman, on va passer par la case Yasmine Levy. Eh oui, ça c'est de la belle chanteuse israélienne que vous avez programmée en sol majeur. Pour quelle raison?
Oui, il y a quelque chose qui se réveille en vous, de fois, vous ne savez pas d'où ça vient. Je suis africain, mais mon arrière-grand-père vient du Yémen. C'est un peu oriental, voilà. Je suis très sensible à la musique orientale. Et quand j'écoute Yasmine Levy, ça m'enchante.
Sufro de corazón, quiero que llores. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación de mi Dios santo. Yo me la
H.
H comme histoire coloniale.
Sidiki Bakaba pour un sol majeur dans cette université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Quelles images vous restent de votre enfance à Bengourou dans les années 50 ?
Accompagnant ma mère dans les sentiers ou aller sur les petites rivières quand elle va rincer le linge qu'elle vient de teindre parce qu'elle est teinturière. Des linges, des boubous, tout le monde courait chez elle pour ça. Et c'était beau quand je voyais les tissus tout blancs, comment elle réfléchissait, comment elle chantait, comment elle fredonnait les chansons mandingues, parce qu'elle était à la fois de cette origine que j'ai dit tout à l'heure, et en même temps, sa mère était malinquée. Donc je suis aussi mandingue de ce côté-là, comme je suis mandingue du côté de mon père. Je ne me séparais pratiquement pas de ma mère, sauf pour aller jouer et tout de suite revenir dans la case. Ces souvenirs, oui, me restent d'Abengourou, me restent vivaces.
Dans ces années 50, justement, je crois qu'il y a une chanson mandingue en particulier qui circulait dans votre case. Elle faisait comme ça, cette chanson. Il y a des chansons plus fortes que tout. Elle vous rappelle quoi, cette chanson, Sidiki?
Ma mère, la vie, de ce qui était beau, et aussi de mes caprices. Et quand je pleure, cette chanson dit « Ne pleure pas, prince. Les pleurs de l'affamée sont cruels. Ne pleure pas. Le corps de la noblesse sonne. Le corps de la justice sonne. Ne pleure pas, prince. » C'est vrai que je l'entendais chanter ça. Tout d'un coup, je cessais de pleurer. Parce que j'étais plus le petit garçon. J'étais tous ces héros que le mandin a connus, pour lesquels on chantait, tu n'as pas le droit de pleurer.
Alors, puisque vous parlez du corps, c'est vrai que le corps, chez vous, c'est un peu comme une peau de tambour qui s'imprègne de chaque choc. Vous allez passer très vite de la culture mandingue profonde chez vous à la culture théâtrale, parce qu'il faut bien qu'on parle de théâtre, à la culture théâtrale des Blancs. Vous allez sortir diplômé très jeune de l'École nationale d'art dramatique de Cocody et vous mettre à jouer dans les lieux les plus improbables de la Côte d'Ivoire et notamment peut-être dans les quartiers de Trècheville. Je dis ça parce qu'on est passé hier pour votre retour ici à Abidjan dans ce quartier populaire de Trècheville. Vous jouiez, si ma mémoire ne me fait pas défaut, des farces de Molière où vous expérimentiez ce que vous appelez le cercle théâtral ?
Oui, sans le vouloir d'ailleurs. J'ai joué avec Bienvenue Neba, qui était un peu mon alter ego. On était comme Laurel et Hardy, lui il était rond, moi j'étais sec. On se complétait et on était toujours en duo depuis les farces de Maître Patelin, en passant par Courteline, en passant par Molière. On allait devant les églises, parce qu'Abidjan, c'est un ensemble de petits villages, et on jouait. Chez nous, ce qui se passait, c'est que le public, on faisait un trait, on disait, vous restez de ce côté, et nous, on joue là. D'accord ? Avec une lampe Petromax qu'on mettait là, et on commençait à jouer. Tout d'un coup, il y a un qui passe derrière. Après, il y a un deuxième, et puis un troisième, et on était encerclé par le spectateur.
C'est le début du théâtre hors les murs.
Eh bien oui, déjà, puisque notre décor était fini, on était entouré. Finalement, notre maître qui nous formait à l'École nationale d'art dramatique nous disait être bien face au public, frontal. Mais non, nous c'était brisé. Le cercle avait brisé ce théâtre à l'italienne.
Alors je donne l'image de l'époque, vous portez des dreadlocks, Sidiki Bakaba, et avec ces dreadlocks, vous traversez mai 68 à Paris, vous vous formez auprès de Grotowski, le maître du théâtre pauvre, vous jouez avec Jean-Marie Serrault, l'amoureux de Césaire et de Kateb Yassine, et puis très vite, vous, qu'on surnomme un peu le Gérard Philippe Noir, vous vous inscrivez dans des films devenus cultes. 1977, Baco l'autre rive, où vous jouez l'immigré en Dioula.
Bokar Sakoye, il faut habiter en France. Ah, oh. Autre méga troqué, contrat de travail, ni certificat d'hébergement. Aïde,
je ne sais pas si tu as de l'hébergement.
Autrement, ni tu as parlé de l'hébergement. Pour qu'il y ait 300 000 francs, la caution, en billet aller-retour, quand tu as avion.
Oh! 300 000 francs, au doux et mouillé.
Le caution de Maliwara Wabi Oro. On est bien aller-retour. Il reste pas que t'as avion.
Et avion, non?
Avion, non. Parce qu'on fait un mal là, qu'on va dire, portier. Ni bien boya, fikata avion de là. Autrement, écoute, avant qu'on a la baraque.
Je vais mourir? Oui.
1981.
T'as peur?
Le professionnel avec Jean-Paul Belmondo.
Non. Pourquoi? Parce que moi j'aurais peur. Parce que toi, tu irais en enfer.
Que vas-tu faire, Samba? Tu vas partir?
Je ne sais pas, ma tante.
Je t'ai observé cette nuit au chevet du maître. Tu ne seras jamais chef des Dialenke.
1983, l'aventure ambiguë où vous jouez Samba Diallo.
Je ne sais pas.
Tu ne sais plus prier, n'est-ce pas, Samba? Et notre peuple se justifie de Dieu.
Vous êtes le chef, mon père. Et vous avez tout le poids de la tradition. Depuis des siècles, les Dialenke ont vécu comme s'ils étaient le monde. Et c'est vrai qu'ils étaient à eux-mêmes leur monde. Et que vous êtes le dépositaire de ce monde-là. Mais moi, quel poids aurais-je?
En sol majeur, toujours à Abidjan, avec vous, Sidiki Bakaba, et quelques-uns de ces films cultes où on voit bien qu'entre cinéma hexagonal et cinéma africain, vous êtes un acteur volontairement tout-terrain, c'est-à-dire à cheval entre le cinéma d'art et d'essai et le cinéma grand spectacle.
Oui. Longtemps, j'ai hésité de jouer au cinéma. Parce que quand j'ai vu les rôles qu'avaient les Africains, les Noirs, je dirais simplement les Noirs, parce que les Antillais, ils sont aussi des nôtres, c'était des porteurs de plateaux, des serviteurs, des brancardiers. C'était des silhouettes. On ne se souvenait même pas de leur tête quand on a vu un film. On savait qu'il y avait un noir qui a traversé la scène. Et oui, je me suis dit, bon, ben moi, je ne ferai pas ça parce que je ne peux pas avoir mis un crayon dans la bouche, des billes deux fois dans la bouche pour apprendre à articuler, à prononcer le français correctement. C'était ma passion. J'aime bien vraiment le défi. Et
est-ce que vous l'avez payé, ça, ce choix artistique de justement ne pas rentrer dans la case qui était réservée à l'acteur noir?
Non, parce que j'étais heureux de faire, par exemple, Baco. Baco qui représente pour moi comme la fureur de vivre serait pour James Houdin ou comme à bout de souffle pour Jean-Paul Belmondo. Chaque acteur, il ferait 200 films, il y a un qui est... Je vais peut-être dire africainement son fétiche qui est là. Il ne peut pas s'en débarrasser. Il est collé. Mais avant que je ne fasse Baco, je jouais déjà les répertoires les plus sophistiqués et en français. Parce que jouer, pour moi, c'était jouer en français. Quand j'ai Baco, j'étais heureux, mais c'était un défi. Parce que j'allais jouer en Dioula. Donc, Oui, je n'ai jamais senti aussi fort un personnage que celui-là, alors que j'en avais peur. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va être quand je vais jouer un Malinké? Est-ce que ça va être juste?
Pourquoi cette peur de jouer dans une langue africaine?
Mais parce que je n'avais pas appris à jouer dans une langue africaine. Ce n'est pas le cas du petit français ou américain qui commence à apprendre son métier dans sa langue. Il joue dans sa langue. Il n'a pas de traduction à faire. Moi, je dois faire des traductions simultanées. C'est-à-dire que pour ressentir réellement un personnage, pour en connaître toute la nuance, je fais une traduction dans la langue de ma mère. Et là, effectivement, je parle français, mais je vis africain à ce moment-là.
Petite leçon d'histoire et de théâtre sur RFI. Rapidement, Sidiki Bakaba, qui est Monsieur Togonini?
Ah, Monsieur Togonini, c'est Bernard Dadié qui l'a écrit. Et c'était un peu genre bourgeois gentilhomme, un peu un dictateur qui piétinait tout le monde, qui était d'une puissance incroyable. Il pouvait mettre qui il voulait en prison. Et il avait un personnage en face de lui qui était une sorte de rebelle et qui était tout le temps en prison. À chaque fois, il arrête, il le jette en prison. Et qui s'appelle Nzeku. Et j'ai gardé ce, quand il dit au juge de M. Togoyini, qui dit encore vous, M. Nzeku, oui, M. le Président, encore moi. Est-ce un plaisir pour vous? Un plaisir certainement pour d'autres. Mais pourquoi vous êtes toujours encore ici? Il lui répond, je crois que j'aurais mieux fait de naître en prison, comme ça on m'aurait jeté dehors, au lieu de tout le temps me jeter dedans.
Très joli. Je pourrais résumer l'histoire, enfin, ce personnage différemment. C'est un esclave noir affranchi qui, au 19e siècle, va aider un négociant blanc dans son entreprise de pillage de l'Afrique. Et voilà ce qu'en dit son auteur pour RFI.
Monsieur Togonini, c'est une histoire très simple. C'est la vie que nous vivions ici. Nous, en tant que jeunes indépendants, il dit tout à l'heure que nos patrons avaient oublié qu'ils ne sont pas des potentats, mais des hommes comme nous. Ils ont essayé de jouer au potentat et l'histoire, nous la connaissons tous. Si l'Afrique est aussi malheureuse aujourd'hui, et pillée, c'est parce qu'ils avaient cette Togonini. Un pillard, un voleur, un tout.
Si.
C'est comme coup de théâtre.
Il fallait donc un colloque international autour de Sidiki Bakaba installé sous un parasol dans l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour entendre cette voix si précieuse, la voix de Bernard Dadié, interviewé par Blaise Njewoya en 2004 au Palais de la Culture, au moment où vous le dirigiez, Sidiki. Et c'est sans doute un documentaire à paraître sur la chaîne YouTube Canal Méroé. Dadié, donc je le rappelle, grand activiste anticolonialiste et pour l'émancipation de l'homme africain, ça lui a valu d'ailleurs plusieurs fois la prison. Que vous a-t-il appris, Sidiki?
Oh, beaucoup, beaucoup de choses. Être résistant, puis devenir ce que Musset disait, comme un miroir dans lequel tout se mire et sur lequel tout glisse. Et je vais devenir cet homme-là. Le coup dur, je l'accuse sur le coup et je le balaie. Parce que si vous souffrez du coup qu'on vous a donné, celui qui vous l'a donné, il a gagné.
Sidiki Bakaba, sous les yeux d'ailleurs de vos anciens étudiants de l'Actor Studio du Palais de la Culture d'Abidjan, on continue cette interview. Vous êtes plus qu'un metteur en scène. Aux yeux de Sidi Bevali, qui est professeur titulaire d'études théâtrales et que j'entendais dans son discours d'inauguration de ce colloque international, il vous qualifie de metteur en crise. Et c'est vrai que les textes que vous choisissez en général sont des textes à charge contre les régimes africains. On se souvient d'Île de Tempête, donc de ce même Bernard Dadié que vous avez monté au Palais de la Culture, un des intervenants de ce colloque parle, à propos de votre mise en scène, d'un hymne au théâtre de guérilla. Et bien avant, puisque on est en train un peu de faire le panégyrique, l'historique de votre carrière théâtrale, vous avez commis, je dirais, une pièce contestataire et révolutionnaire dans sa forme, qui s'appelle « C'est quoi même ?», où vous dénonciez, je crois, le goût immodéré pour le pouvoir et l'argent. Tout en nous disant un mot de cette pièce, j'aimerais bien qu'on ait une image, une scène de cette mise en scène que vous avez fait autour de « C'est quoi même ?».
Je commence la pièce par un travail d'improvisation que toutes les comédiennes vont accoucher de tous les acteurs sur scène. Sous forme de fœtus, tous les comédiens physiquement deviennent des fœtus. Pendant que les femmes souffrent pour les mettre au monde, qui, comme chez les Indiens, debout, qui accroupit, et voilà. Elles les mettent au monde et elles vont prendre leur bébé. Elles vont les présenter aux spectateurs. Déjà, je cassais le théâtre traditionnel, pas de rideau, tout se fasse devant nous et viennent vers les spectateurs présenter leur bébé. Il en reste un sur le plateau qui n'arrive pas à se lever, et sa maman hurle, tout le monde court pour aller sur scène, l'aider à le monter pour qu'il soit sous ses pieds. Pendant qu'ils le mettent sous ses pieds, eux s'accroupissent et lui monte. Dès qu'il est redressé comme un homme, il donne un coup de pied à sa mère et à tout le monde. Le tyran est né et il les met aux travaux forcés, il les maltraite, il a un fouet, il devient à la fois le négrier, il devient tout d'un seul coup. Ceci pour dire que nous sommes, c'est nous qui mettons au monde nos tyrans, c'est nous qui mettons au monde notre destructeur. Et oui, on le met sur pied et après on commence à s'en débarrasser. Voilà une des images de c'est quoi même, parce que déjà j'avais à l'époque 21 ans et on était presque à une dizaine d'années d'indépendance, et tout ce rêve de préado qu'on avait pour dire ben voilà, les blancs sont partis, c'est nous qui allons les remplacer, c'est le nôtre, ça va être formidable. Au lieu de cela, on commence à entendre parler d'emprisonnement. On ne comprend pas. Le jeune qui rentre de Paris, après ce que mai 68 a donné de profusion, de créativité, je pensais que j'étais comme tous les jeunes de cette période-là.
Alors, si on vit en Côte d'Ivoire, je sais qu'on peut voir régulièrement passer à la télé votre film Les Guérisseurs et parfois aussi Roue Libre. On n'a pas le temps d'ouvrir ce chapitre filmographique qui est bien riche et intéressant, mais dont on parle en profondeur ici dans ce colloque international autour de vous, Sidiki. Mais pourquoi l'homme de théâtre et l'acteur de cinéma que vous êtes est passé un jour derrière la caméra ?
Oui, justement parce que... Je ne voulais pas m'asseoir et attendre qu'on m'appelle pour venir jouer. Et puis j'ai souvent dit, non, je ne vais pas jouer ça. On m'appelle, on me dit, ah, c'est François Sagan, c'est une pièce de Tennessee Williams. Puis il y a un personnage qui s'appelle Fly, Mouche. J'ai dit, mais cette mouche-là commence à me piquer. Et je refusais ce que d'autres feraient pour une carrière. Et parce que ma mère m'a dit une chose, mon fils... Je prie Dieu qu'on rit avec toi, mais qu'on ne rit pas de toi.
Philosophe, la maman. Coup de théâtre. Quand vous n'êtes pas au théâtre ou au cinéma, Sidiki Bakaba, vous êtes sur le terrain. Et là, je pense à ces événements de 2002-2004 que vous filmez et qui racontent le massacre qui s'est produit devant l'Hôtel Ivoire. Film dédié aux 64 victimes, c'est en exergue de votre film. Et aux 2200 blessés par les soldats français de la force Licorne. C'est un documentaire incendiaire qui revient sur les guerres de succession après la mort de Fouad Boigny et avec les grandes figures de cette bataille, Bédier, Gbagbo, Ouattara, Gueye. Documentaire qui revient sur les coups d'État, les rébellions, les scènes de sacrifice humain. On va écouter une minute en sol majeur un certain Mamadou Koulibaly qui est président de l'Assemblée nationale à ce moment-là, à propos du coup d'État de Marcoussi en 2003.
Au départ, c'était une mutinerie, les zinzins et les baïfous résolus, les revendications politiques résolues. Mais ça n'a pas plu à la France qui nous a demandé de nous retrouver à Paris. À Paris, au lieu de traiter la question de l'agression de l'État de Côte d'Ivoire, on a réuni autour d'une table les partis politiques et mouvements rebelles et on leur a posé une question. Comment est-ce que vous pouvez vous arranger pour accéder au pouvoir? Ce n'était pas notre problème, ça, en tant qu'État de Côte d'Ivoire. On a une constitution, on a un code électoral et ces textes sont clairs. Et là-bas, à Marcoussis, ils ont reconnu que ces textes étaient clairs. Mais puisque la question a été posée aux partis politiques et mouvements rebelles, bon, chacun a essayé de mettre dans le panier ce qui pouvait l'arranger. Certains ne voulaient plus de plafond d'âge, d'autres ne voulaient plus de plancher d'âge, d'autres avaient des problèmes de nationalité, d'autres des problèmes d'identité. Et tout cela dans un même document qui, à la pratique, n'a pas été utilisable. On n'a pas pu utiliser ce document parce que les négociateurs n'étaient pas les personnes indiquées.
C'est un menteur. Lui, de Villepin, Jacques Chirac, assiste de tuer Gbagbo là. Nous, ils vont nous tuer, nous, les 16 millions ivoiriens.
C'est du diarrhée.
La décolonisation a commencé. La décolonisation a commencé. La décolonisation a commencé. Nous allons libérer l'Afrique. Nous aurons notre indépendance économique, politique et culturelle.
Sidiki Bakaba pour un seul majeur, donc ici à Abidjan, avec cet extrait de La victoire aux mains nues, où on vous voit caméra au poing, au milieu d'une foule qui réclame justice et paix, avec sur certaines banderoles des slogans qui demandent à Jacques Chirac d'arrêter de vouloir être le président des Ivoiriens. Mais la question vous est régulièrement posée, vous la première star noire du continent, on se demande, les milieux autorisés comme on dit, se demandent pourquoi est-ce que vous filmez ce genre d'événement ?
Oui, il y a une grande dame qui m'a posé la question en janvier. Mais pourquoi vous filmez, hein? J'ai eu de la compassion pour elle. Parce que si on peut accepter de partout dans le monde qu'un réalisateur veuille être témoin, Michael Moore aux États-Unis fait les plus grands films et se promène librement dans son pays, si la France autorise aussi aux Français, j'en suis un d'ailleurs, il faut le savoir, de filmer, pourquoi je ne peux pas filmer, pourquoi toute la Côte d'Ivoire était debout. C'est un soulèvement extraordinaire. Et j'avais ma caméra, j'allais marcher avec les handicapés, les femmes, les travailleurs, toutes les couches. À 5 heures du matin, j'étais là où ils devaient partir et je marchais avec eux pour filmer. Pour témoigner, tout simplement, j'ai fait mon
mais
travail.
Mais vous faites votre travail, mais c'est un risque inconsidéré. Vous parlez de Michael Moore. Oui, il le fait dans un pays qui s'appelle les États-Unis. Ça reste une démocratie. Pourquoi est-ce que vous prenez ce risque? Est-ce qu'il y a une forme de naïveté chez vous qui fait que, au service de l'humanitaire, parce qu'il y a aussi cette grande question dans votre parcours, pourquoi est-ce que vous prenez le risque pour l'humanitaire, pour l'engagement citoyen, on va dire? Pourquoi est-ce que vous prenez à ce point ce risque dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire?
Est-ce que ma vie aurait un sens si je ne prends pas le risque? Je crois que le premier risque qu'on prend, c'est que quand on vous met au monde, dès le premier cri, les risques ont commencé déjà. Mais ceci dit, oui, quand la conscience arrive, c'est un choix. De toute façon... Si j'étais mis en face de ce que je ressens, moi, comme une injustice, où que ce soit, ça aurait été la France, je prendrais ma caméra pour témoigner. Ça aurait été au Burkina Faso, j'aurais pris ma caméra pour témoigner. D'ailleurs, Mamadou Koulibaly m'a dit un jour, ce film n'aura de poids que dans 50 ans. Il m'a dit ça. Et oui.
Mais il y a un malentendu autour de vous, puisque votre exil est devenu... à en lire la presse, un exil un peu politique. On va éclaircir ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il faut vous présenter comme un ancien idéologue de Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on peut être ami des présidents?
Non, ce n'est pas possible, ce qu'a dit Ampateba. Tout le monde pensait qu'il était l'ami, le compagnon, l'alter ego de Oufouet Boigny. Il s'aimait beaucoup. Et un jour, il a répondu à vos collègues, non, un président, ça ne peut pas être l'ami de qui que ce soit. Il est l'ami du pouvoir.
Je
A.
A comme amulette.
Si je vous fais les poches, Sidiki Bakava, je suis pas sûre de trouver des fétiches ou des amulettes, quoique. Mais la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que vous êtes un comédien mystique ?
Oui, je suis mystique aussi, oui. Je crois que l'art est un don divin et que nous ne sommes pas des créateurs. Nous transmettons, c'est tout. Je crois que la création appartient à celui qui nous a tous créés et qui nous le transmet d'une manière ou d'une autre. Et en cela, oui, je ne me mets par exemple jamais sur une scène ou devant une caméra pour incarner des personnages qui ont vécu sans aller leur demander pardon ou leur demander plutôt leur permission.
C'est-à-dire un exemple ?
Un exemple, quand on devait travailler sur le camp de Charoy, on passait devant le cimetière où... ces pierres anonymes de mort étaient là, on allait. Et j'avais un personnage pays que Saint-Ben Ousmane, le réalisateur Saint-Ben Ousmane, considérait comme son personnage principal. Il était muet. Il m'a dit, oui, celui-là, c'est l'Afrique muette. Parce que personne ne connaît son nom. Les Allemands lui auraient coupé la langue. Donc tout le monde l'appelait mon pays, parce que les autres, on disait tirailleurs Congo, tirailleurs Côte d'Ivoire, tirailleurs Haute-Volta, mais lui, personne ne sait d'où il vient, il était muet. Et il était le plus lucide de toutes ces manigances, de toutes ces fausses promesses que la France avait promis à ses tirailleurs, et il le sentait. Et ben oui, Charoy est à loin de Dakar. On passait devant le cimetière, je demandais que ça s'arrête. Je rentrais dans le cimetière. J'allais me recueillir. Qui es-tu, pays ? Je ne sais pas où tu es. Mais je viens demander ta permission. Parce que ce qui s'est passé est très dur pour l'humanité. Le Saint-Ben Ousmane est en train d'en faire un film. Je joue ton personnage. Je ne connais pas ton nom. Donne-moi la permission de le faire. Je l'ai fait de la même façon, d'une autre manière. Quand je fais Toussaint l'ouverture, oui, j'ai réfléchi à Toussaint l'ouverture. Et je demande à ma manière l'autorisation. Et je fais pareil pour l'exil d'Albori. Si c'est ça, appeler mystique, mais je n'ai pas le droit d'incarner quelqu'un sans sa permission.
Donc si je résume Bakaba, c'est... un souffle mandingue dans des gants cloutés de citadins. Des gants qui font jaser, on se demande la signification de ces gants cloutés. Est-ce qu'on pourrait avoir une primeur pour un sol majeur ?
Il faut quitter dans ça.
Voilà, voilà. On est dans le métissage absolu, là. C'est un métissage biologique, métissage culturel, métissage linguistique. Parce que, effectivement, quand on vous croise dans la vie comme ça, vous avez un goût pour la langue. Vous passez facilement du français... standard, à la Giraudoux, de la grande langue française, au gros français, comme on dit ici à Abidjan.
Oui, gros français, oui. Ou papier longueur. D'ailleurs, on est dans l'enceinte de papier longueur, ici, là, université, là. C'est des papiers longueur. Si tu n'es pas, tu peux écouter, là. Tu ne peux pas tout comprendre, hein, mais il faut... Puisque comme on ne comprend pas, on les applaudit. On dit c'est bon. Il a fait gros papier, mais même si moi je comprends pas, je l'applaudis, je l'admire. Oui, j'admire. Et beaucoup disent qu'ils ne comprennent pas Senghor. Moi, je me suis très vite penché sur les textes de Senghor quand j'étais élève à l'école d'art dramatique pour apprendre les poèmes de Senghor, Dadi et ses fluides. Senghor, Césaire, ça là, il faut chercher les images, hein. C'est pas facile. Mais oui, c'est, je suis fier de tout ce qui peut partir de l'être humain quand il fait une performance, d'où qu'il vienne.
Pour reprendre une phrase que vous avez dit lors de votre discours à ce colloque international ici à Abidjan, je ne sais pas d'où je ne suis pas.
Ah oui, c'est spontanément venu comme ça. Je cherche, est-ce qu'il y a un endroit sur cette terre où je ne suis pas de là-bas ? Quand j'arrive dans un pays, dès que j'ai respiré l'air, c'est fini. J'appartiens, je suis là, je suis de ce pays-là.
Thank you.
Monsieur prend combien de sucre?
2. Alors, ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Marie? C'est bien entendu?
Mais oui, monsieur.
Très bien.
Si monsieur le permet, je vais me retirer.
Non, attendez, ma petite Marie, attendez un peu. Vous avez un moment?
Je suis au service de monsieur.
Dites-moi, est-ce que vous aimez la lecture?
Oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour lire.
J'y comme...
Mais vous savez bien lire.
Ah oui, monsieur.
J'aime pas.
Jeanne Moreau.
Oui, bien sûr.
C'est pas rien, Jeanne Moreau, dans votre histoire?
Non, pas du tout.
Ça commence à Ben Gourou et puis ça se termine sur une scène de théâtre parisien dans une mise en scène de Claude Régis.
Oui, et c'était merveilleux pour moi. J'ai rêvé que cette femme n'était même pas une femme, c'était un djinn, comme on dit chez nous, de ma ville natale de l'Indénié à Ben Gourou, quand j'ai vu sur l'écran. Et quand, à l'âge de 22 ans, par là, je la rencontre à Paris, quand Claude Régis me fait venir, et je vois Jeanne Moreau en chair et en os, et puis je vais jouer avec elle, c'était d'un amour maternel, c'était d'une gentillesse, d'un amour, d'une générosité de ce métier.
C'était dans la pièce Loulou, et puis il y a un scoop qu'on peut révéler éventuellement, c'est que quand la scène du baiser se produit sur scène, c'est un vrai baiser qu'elle vous donne.
Oui, de temps en temps, oui, mais je respectais, j'avais peur, je tremblais, elle allait au fond de ce qu'elle faisait, donc ça se respecte.
Les chevaux.
Ah, oui, pour certains qui ont un regard de l'Africain, ça ne peut être qu'un palefrenier, ça ne peut pas être maître des chevaux, mais qu'ils apprennent que Sidiki Bakaba descend de... Cheikh Fantama des shérifs qui avait des dizaines de chevaux à Cancan, qui l'ont toujours eu, et que le Soninké est déjà un homme sot, il y a du mot sot dedans, c'est déjà le maître de chevaux. J'ai eu un rapport avec les chevaux qui était nuit, et il y a toujours un rapport très mystique avec le cheval. Paraît-il que quand un mal doit arriver, il lui préfère deux fois disparaître à ta place.
Je ne sais pas si on a la montre avec vous ou si on a le temps avec vous, Sidiki Bakaba. Ça passe trop vite pour en sol majeur ici. Donc, j'aurais pas le temps de vous poser la question sur l'Actor Studio, qui est cette école de théâtre que vous avez montée au Palais de la Culture d'Abidjan. Mais je vais quand même m'autoriser cette dernière petite question. L'ambassadeur pour la culture que vous êtes, est-ce qu'il a un projet aujourd'hui?
Oui, j'ai toujours un projet tant que je vis. Oui. Redonner encore, j'ai vu les jeunes autour de moi hier, j'ai crié après leur formation, 10 années de formation, j'ai fait faire un statut d'une troupe de théâtre, pas une troupe de Sidiki Bakaba, mais une troupe du Palais de la Culture comme il existait dans le temps partout en France, théâtre du Palais Royal ou théâtre de la Comédie Française avec des comédiens vraiment professionnels. Malheureusement, le nouveau directeur est arrivé et il a dissous la troupe. Ils sont aujourd'hui
dans
la nature, de temps en temps. Ils sont appelés pour venir faire des guignols. C'est triste, c'est tout.
Donc
c'est du gâchis.
Celui qu'on appelle maître, puisque vos étudiants vous appellent maître, il a donc un projet.
Ah oui, c'est de les réconcilier, qu'ils travaillent ensemble, que la Côte d'Ivoire est ça, et qu'ils puissent, comme certains le font en ce moment, et qu'ils puissent aller dans d'autres pays d'Afrique, former des jeunes, former chez eux, et puis qu'on donne de la qualité. C'est mon projet avec eux. J'ai pas formé des acteurs, j'ai formé des hommes.
Est-ce qu'on se quitterait avec cette voix si singulière qui nous accompagne depuis presque une heure en sol majeur, dans un extrait de Béatrice du Congo?
Oui, de Bernard Dadier, ici, avec le roi du Congo, qui comprend soudain coup qu'il a été utilisé. Branche séchée dans la forêt vivante, la touffe d'herbe en train de pourrir l'eau, de tuer les poissons. Vieux sorcier se nourrissant de ses propres enfants, des années durant, j'ai régné sur des cadavres. Des enfants condamnés avant même d'avoir été conçus, condamnés pour avoir vu le jour sur les bords du Zaïre, dans le royaume du Zaïre. J'ai été le souverain des morts. Et c'était pour ça, l'argent. singe, crocodile, papillon, oiseau, ivoire, homme, on a traité de tout. Ah, grand cordon, grand cordeau, pour les ultimes séparations, grand croix, pour la crucifixion de mon peuple, et vous, toute médaille qui bruissait sur ma poitrine, je n'ai été que le serviteur de vos maîtres, le paravent des intérêts les plus sordides. Je retourne à l'Afrique traditionnelle qui ne portait aucune corde au cou, à l'aise, maître de mes mouvements et de mon destin.
Retrouvez-nous sur RFI.fr, Facebook et Twitter.
En sol majeur à Abidjan, merci à vous Sidiki Bakaba, merci également au professeur André Baouman Kamaté, maître d'œuvre de ce colloque international qui publie donc Théâtre et Société, réflexion sur des spectacles de Sidiki Bakaba aux éditions universitaires européennes, et puis Sidiki Bakaba et ses œuvres en 26 lettres, c'est aux éditions L'Harmattan. Quelques notes du Köln Concert de Keith Jarrett. Que vous aimez bien, Sidiki, pour se quitter.
Merci, Madame Chouaki.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio. Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine à Paris avec Noémie Weisfeld. À la semaine prochaine.